Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast dédié à l'actualité du football européen. Je suis Julien Pereira, journaliste à Eurosport et ce lundi, on a encore beaucoup de bons sujets à décortiquer, à commencer évidemment par le choc qui a opposé l'OM au Paris Saint-Germain, victoire 3-0 du club de la capitale. Avec Elton Mokolo, notre spécialiste Ligue 1, on se demandera quels enseignements les deux clubs doivent tirer de ce match. On rejoindra ensuite Philippe Auclair en Angleterre pour analyser la situation de Chelsea, battu par Tottenham et en très grande difficulté sportive malgré ses énormes dépenses lors du mercato d'hiver. On se rendra ensuite en Bavière avec David Lortolari pour faire un point sur l'état de forme du Bayern, également vainqueur 3-0 de son choc, à moins de 10 jours de ses retrouvailles avec Paris. Et puis, on finira par un détour en Espagne pour évoquer avec Ana Caro La semaine noire, du Barça en difficulté sûre et en dehors du terrain. Avant de lancer cette émission, je vous rappelle que Tour d'Europe est un podcast à retrouver tous les lundis. Vous tapez Eurosport FC sur toutes les plateformes d'écoute et vous aurez également accès au FC Stream Team, notre émission du vendredi. Pour voir et revoir les meilleurs moments de cette émission en vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr. Voilà, vous connaissez le programme, alors Tour d'Europe, c'est parti. On débute donc cette émission avec toi, Elton, notre spécialiste Ligue 1. Comment ça va ?
Bonjour Julien, très content de te revoir et bonjour à tous pour cette nouvelle émission.
Elton, on attendait beaucoup de ce match entre l'OM et le PSG pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait eu cette victoire de l'OM en Coupe de France face au PSG. Il y avait l'enjeu sportif qui était énorme. Finalement, tout s'est passé entre guillemets comme on aurait pu l'imaginer avant le match, c'est-à-dire que le PSG a réagi dans l'attitude et Mbappé a changé beaucoup de choses.
Oui, c'était un match charnière pour le PSG déjà parce que comme tu l'as expliqué, il y avait le précédent en Coupe de France. Surtout, le PSG n'était pas dans une bonne dynamique, même s'il y avait eu la victoire face à Lille. Donc ce match avait beaucoup d'importance pour le PSG, également pour l'Olympique de Marseille, mais beaucoup plus pour le PSG parce qu'on sait très bien qu'avec le PSG, c'est le jugement permanent. Et le fait de voir le PSG gagner, et surtout avec la manière, et ben forcément, on sait que du côté du PSG, on a réalisé le meilleur match de la saison à un très bon moment.
On est obligé de revenir une nouvelle fois sur la performance de Mbappé. Un doublé, une passe décisive. Finalement, il a reconfirmé ce qu'on savait déjà et ce qu'on avait vu lors de son entrée face au Bayern, c'est qu'avec lui, il y a un côté inéluctable et il y a une espèce d'influence sur tout le monde, sur tous les joueurs, sur les défenses adverses. C'est toujours comme ça avec.
J'aime beaucoup ce côté inéluctable, Julien, parce que ça va faire référence à ce que disait Ancelotti par rapport à son idole Cristiano Ronaldo. Quand on a Kylian Mbappé du côté du PSG, on démarre avec un but. Là, pour le coup, il y en a eu deux. Mmh. Et donc, par rapport à ça, qu'on a vu qu'à la différence des derniers matchs où Kylian Mbappé n'était pas présent, comme face à Marseille, à l'occasion du match en Coupe de France, là, ça change radicalement la donne parce que tu sais qu'avec Kylian Mbappé, il intimide autant les adversaires qu'il donne de la confiance à ses coéquipiers. Et Kylian Mbappé a fait une performance de premier choix et Kylian Mbappé a surtout égalé Edinson Cavani. Et donc ça, c'est une stat qui veut dire beaucoup de choses parce que Kylian Mbappé est arrivé en 2017. On est en 2023, il est déjà co-recordman en termes de buts du côté du PSG. Donc par rapport à ça, une performance qui va faire beaucoup de bien au PSG, mais qui va surtout valoriser la figure de Mbappé au PSG, et dans cette idée qu'aujourd'hui, davantage, c'est le leader de cette équipe.
Il y a autre chose qui est très important dans cette victoire du PSG face à l'OM, c'est ce retour à un système à 3 derrière. Ça a plutôt bien fonctionné, on a vu que le PSG était beaucoup plus solide, on a vu aussi que ça limitait finalement le manque de repli défensif des deux attaquants. Est-ce que ce match-là, selon toi, doit semer une petite graine dans l'esprit de Christophe Galtier et doit le convaincre de rester avec ce système, de garder ce système jusqu'au Bayern et peut-être même à plus long terme ?
C'est plus ou moins ce qu'a dit Christophe Galtier en conférence de presse en expliquant que maintenant on ne va pas changer pour changer. Et donc par rapport à ça, il faut de la continuité avec ce système parce que déjà ce système il était pertinent parce que tu avais une égalité numérique par rapport à ce que proposait l'Olympique de Marseille. Ensuite, par rapport à la défense, ça fait le retour de Kimpembe. Bon, avant malheureusement qu'il se blesse et tu as eu l'incorporation de Daniel Pereira. Donc ça te donnait une assise défensive de plus grande qualité. Ça permettait notamment de faire en sorte que Sergio Ramos ait moins de distance à couvrir, qu'il soit dans un rôle de libéro et donc c'était beaucoup plus pertinent pour lui. Ensuite, notamment sur les pistons, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, ça t'a permis de mieux presser. On sait très bien que le PSG, dans sa capacité à presser l'adversaire ces dernières semaines, c'était compliqué. Et là, le fait de voir Nuno Mendes et Mukele très agressifs, et ben forcément, l'Olympique de Marseille, qui est habitué à imposer son rapport de force, cette fois-ci, l'a subi. Dès la première minute de jeu, on a vu l'intention du PSG vraiment aller chercher l'Olympique de Marseille et faire en sorte que le gain espace-temps soit en sa faveur. Et donc, on a vu un PSG beaucoup plus conquérant, un PSG beaucoup plus agressif. Galtier l'avait expliqué aussi bien post-match Coupe de France et en avant-match vendredi. Il fallait que le PSG gagne ses fameux duels, gagne ses seconds ballons. Et là, pour le coup, on a vu vraiment une performance qui allait dans cette direction. Ne pas oublier aussi l'apport des trois milieux. Verratti, dans sa capacité à rapidement sortir le ballon. Et là, en ce sens, ça m'a rappelé le PSG version Pochettino, qui était capable de rapidement sortir le ballon. Et Vitinha, Fabien Ruiz, qui ont été vraiment très importants dans leur capacité à gagner ces duels au milieu de terrain. Pour moi, si tu veux, Julien, l'action qui illustre ça, c'est le troisième but. C'est le troisième but parce que ça démarre de Vitinha qui gagne le ballon sous pression, qui permet notamment de trouver un relais avec Sergio Ramos. Sergio Ramos, première intention, il trouve Fabien Ruiz. Fabien Ruiz gagne son duel. Et ensuite, il y a cette transition qui va amener le geste exceptionnel de Lionel Messi et le geste exceptionnel de Kylian Mbappé. C'est précisément ce que le PSG doit faire. Agressivité, sortie de balle rapide et enfin trouver Kylian Mbappé.
Elton, je pense que tu m'as vu venir avec cette précédente question. Ce choix-là de Christophe Galtier a aussi quelque part été facilité par l'absence de Neymar. Neymar qui est incertain mais qui pourrait quand même jouer contre le Bayern Munich, ça c'est une information de l'équipe. Il y a toujours un espoir. Est-ce que malgré tout, même si Neymar revient, même s'il revient en forme à plus long terme, est-ce que Christophe Galtier doit conserver à la fois ce schéma-là mais aussi ces 11 joueurs-là parce qu'on sait que intégrer Neymar dans un système dans ce système-là, c'est beaucoup plus compliqué.
Mais aujourd'hui, Julien, ce n'est pas par rapport à Neymar, mais les faits sont têtus. Dans un PSG qui a besoin d'équilibre, c'est quand même mieux d'avoir seulement deux stars. Je veux dire par là que Vitinha, Fabian Ruiz sont des joueurs qui n'ont pas vocation justement à avoir le statut de Neymar de manière très logique. Donc par rapport à ça, ils vont avoir des tâches beaucoup plus ingrates. Alors qu'avec un Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, cette notion d'équilibre, elle est beaucoup plus précaire. Et là, le fait d'avoir une équipe beaucoup plus compacte, eh ben, ça favorise l'expression collective et ça favorise l'expression individuelle d'un Kylian Mbappé, d'un Lionel Messi. Si tu veux, quand il y a Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, les joueurs vont chercher à s'associer. Parce que voilà, ils ont leur repère, ils ont leur affinité technique. Mais c'est au détriment notamment des joueurs de côté. Et défensivement, on sait très bien que même si Neymar avait couru quand même 12 km face au Bayern, on ne parle pas de joueurs qui sont très intéressés à l'idée de défendre sans ballon. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'absence de Neymar, et c'est dur à dire, mais il faut quand même le constater, avantage de Christophe Galtier dans cette idée de se dire que dans l'expression collective, je vais pouvoir densifier le milieu de terrain. Et ça, c'est un élément qui est très important parce que tu as gagné la bataille du milieu de terrain précisément parce que tu as eu un ajout numérique. Et comme tu as eu un ajout numérique avec des joueurs qui étaient capables justement d'être très importants aussi bien avec ballon et sans ballon, et ben ça change la donne. Mais encore une fois, ce n'est pas à cause de Neymar que le PSG est précaire défensivement, a du mal à avoir des attaques placées. Non, c'est parce que c'est toute une logique collective à avoir.
On a beaucoup parlé de Christophe Galtier. Je voudrais qu'on parle d'Igor Tudor parce que les journalistes l'avaient beaucoup interrogé justement sur la présence de Mbappé. Est-ce que ça pouvait changer défensivement pour l'OM avec sa présence dans la profondeur? Lui a été têtu. Il a dit qu'il voulait continuer de jouer avec ses principes. Est-ce qu'il aurait dû, est-ce qu'il aurait pu aussi jouer autrement, demander à ses hommes de jouer différemment, notamment sur le marquage?
Ce qui est très intéressant, Julien, c'est que Tudor a été dans une sorte de compromis, et compromis qui a été largement raté, parce que tu regardes le score, effectivement c'est raté. Compromis parce que d'un côté, il voulait avoir ses préceptes habituels, mais de l'autre, il a trouvé des adaptations par rapport à Kylian Mbappé, ce qui est un élément qui est très important, et surtout par rapport à l'état de forme d'Eric Bailly. Il ne faut pas oublier qu'Eric Bailly, avant cette rencontre, c'est 52 minutes de jeu depuis le début de l'année 2023. Donc par rapport à ça, le fait de ne pas avoir Bemba, Ça a amené Bailly, notamment, à défendre dans ce secteur-là. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Igor Tudor ? Il a mis Nuno Tavares pour justement avoir un joueur qui serait capable de défendre Kylian Mbappé. Et là, pour le coup, ça a été raté parce que déjà, tu as bougé Nuno Tavares qui est habituellement sur le côté gauche. Tu as sorti Jonathan Clauss qui est quand même le deuxième meilleur passeur de Ligue 1. Donc, déjà, il y avait une idée de. Ok, on va essayer de faire ce qu'on fait habituellement, mais à côté de ça, on est obligé d'avoir des compromis parce que déjà, on a Kylian Mbappé qui est aujourd'hui le joueur qui intimide le plus dans le Gotha du football mondial, et surtout parce que Eric Bailly n'est pas en forme. Et d'ailleurs, Eric Bailly sort en deuxième période, et ça, c'est pas vraiment rassurant quand on parle d'un défenseur.
Je voudrais qu'on profite de ta présence pour parler d'un autre match qui s'est soldé d'ailleurs sur le même score, la victoire de Nice à Monaco, 3-0. Alors, on a parlé justement de Galtier, on a parlé de Tudor. On peut aussi parler de Digard qui, lui, pour le coup, est tout sauf un dogmatique. On a l'impression qu'il sait adapter son équipe, peu importe l'adversaire, peu importe sa qualité aussi.
C'est très important ce que tu dis, Julien, parce que ce qui ressort de la préparation des matchs de Digard, notamment sur les gros matchs, que ce soit face à Lens, que ce soit face à Marseille et que ce soit donc face à Monaco, c'est sa capacité à être méticuleux et à s'adapter notamment aux forces, mais aussi aux faiblesses de l'AS Monaco. Tu sais très bien que dès lors que tu avais une charnière qui était remaniée du côté de l'AS Monaco, dans la gestion de la profondeur, ça a été un peu plus compliqué. Et c'est comme ça qu'arrive le premier but avec Dante qui lance dans la profondeur Teremofi profite d'un placement aléatoire de Disasi pour faire la différence.
Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs autres occasions qui ressemblent à celle-là.
Exactement, le deuxième but arrive de la même manière avec Thuram qui lance dans la profondeur Mofi. Alors déjà, il y a deux choses. Tu valorises la capacité à prendre la profondeur du côté de Teremofi et surtout la faiblesse de Monaco dans sa capacité à défendre les grands espaces. Et c'est en ce sens que Digard, pour moi, c'est un entraîneur d'avenir, mais c'est surtout un entraîneur du présent parce que sa capacité justement sur les grands matchs avec une équipe en face qui est censée être supérieure à toi et ramener notamment ce rapport de force en ta faveur, ça c'est la marque d'un entraîneur qui sait où il va. Et là pour le coup, les joueurs sont non seulement convaincus, mais convaincants.
On associe beaucoup, à juste titre d'ailleurs, la réussite actuelle de Nice à Digard parce que de toute façon, depuis qu'il est en place, c'est l'équipe qui prend le plus de points en Ligue 1. On peut aussi parler des individualités. On a quand même la sensation qu'il y a une vraie colonne vertébrale qui s'est mise en place à Nice, avec Schmeichel qui est très bon depuis plusieurs semaines, avec Todibo qui lui était déjà assez bon avec Lucien Favre, avec Thuram qui fait encore un match énorme contre Monaco, et puis avec Mofi qui, ça y est, semble définitivement intégré à Nice.
Ouais, c'est vrai, Mofi qui, il y a une dizaine de jours, était un peu critiqué par rapport à son utilisation du ballon, par rapport au fait qu'il touchait peu de ballons. Là, le fait d'avoir une colonne vertébrale, c'est un élément qui est capital pour une équipe, parce que tu as besoin d'avoir un cadre où il y a justement des joueurs référents. Et là, il se trouve que ligne par ligne, tu as un regain de forme de Schmeichel par rapport à ce qu'il avait fait en début de saison. Tu as Todibo qui est un défenseur très important en Ligue 1. Au milieu de terrain, faut pas non plus oublier Boudaoui qui a été important, Thuram qui a été décisif avec une superbe passe et un but qui a été extraordinaire, et en attaque Tamofi. Donc tout ça participe à quoi ? Participe à avoir une équipe niçoise qui dès lors peut avoir de la continuité avec ses individualités qui sont à ce niveau-là, et ça te permet de remonter au classement. Et faut pas oublier un dernier élément, c'est la capacité de Digard au moment de valoriser notamment des joueurs qui n'étaient pas prévus, notamment dans le synopsis du début de saison côté niçois. Je parle notamment des joueurs jeunes. On a vu que Digard, qui est passé notamment par la réserve, n'hésite pas justement à utiliser des jeunes joueurs pour les faire rentrer dans la dynamique. Et ces jeunes peuvent apporter cette capacité à être insouciant, cette capacité justement à être énergique et à participer au fait que Nice est vraiment sur un regain de forme qui est très intéressant. Monaco avait quand même pris 20 points sur 24 possibles. Donc ça veut bien dire quelque chose.
Eh ben, merci à toi, Elton, pour
toutes ces analyses. Merci à toi, Julien.
On va continuer de suivre la progression de Nice, mais on va tout de suite filer à Londres pour rejoindre Philippe Auclair, notre envoyé spécial en Angleterre, pour évoquer le cas de Chelsea. Philippe, bonjour. Pas de grands enseignements à tirer dans le duel pour le titre qui oppose Arsenal à Manchester City, puisque les deux clubs ont gagné. En revanche, il y a un choc qu'on a regardé de près, c'est le derby entre Tottenham et Chelsea. Chelsea qui s'est encore incliné de 0, Chelsea qui a perdu ses trois derniers matchs, toutes compétitions confondues. Chelsea qui n'a gagné qu'une seule fois en 2023 après un mercato hivernal de tous les records. Philippe, on a envie de dire tout ça pour ça.
Oui, tout ça pour pas grand-chose, presque rien. Beaucoup de critiques adressées à l'entraîneur Graham Potter. Beaucoup de questions qui se posent également sur les choix de la hiérarchie de Chelsea qui, plus on les considère de près et plus le temps passe, plus on se dit que les doutes qu'on avait sur leur capacité à gérer ce club étaient fondés. C'est vrai que sur le plan du football, c'est catastrophique, en tout cas sur le plan comptable. Même si je serais tenté, je me fais toujours un petit peu l'avocat du diable, de dire que les performances de Chelsea n'ont peut-être pas été aussi abominables que les scores pourraient le suggérer. Mais c'est vrai qu'au niveau, par exemple, de l'efficacité offensive de Chelsea, si on peut utiliser le mot efficacité, c'est catastrophique, puisque Leeds, qui se bat pour éviter la relégation, je crois, a marqué 6 buts de plus que les 23 de Chelsea, 23 ou 24 matchs. Et c'est le plus gros problème de Chelsea en ce moment, c'est que dans le jeu, on ne va pas dire que c'est flamboyant, mais c'est correct. Disons que ça. Le ballon circule plutôt bien entre les lignes. Défensivement, c'est pas catastrophique, même s'il y a quelques déchirures de temps à autre. Mais alors, par contre, devant, c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe d'autant plus extraordinaire que ce club a quand même dépensé 300 millions d'euros au dernier mercato hivernal. Et n'oublions pas que ce sont des 300 millions d'euros nets. Je pense qu'on va parler d'ailleurs du côté financier de l'opération, hein, dans
Bien
quelques
sûr.
secondes. Mais la chose qui est quand même extraordinaire, c'est que par exemple, ce qu'on a vu dans le derby contre Tottenham, qui aussi est un des derbys les plus chauds, hein, du championnat d'Angleterre, est un Graham Potter qui a dû se tourner vers Pierre-Emerick Aubameyang en désespoir de cause à la fin de la rencontre lorsqu'il a vu qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Or, Pierre-Emerick Aubameyang, il n'était même pas sur la feuille de match les semaines précédentes. Pierre-Emerick Aubameyang, il a disparu dans le train des Bermudes. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est l'ombre de l'ombre de l'ombre du joueur qu'il fut à Arsenal, par exemple, au Borussia Dortmund et même à Barcelone. Et donc, il y a en effet ce problème d'efficacité offensive qui est tel que maintenant, on voit bah oui, Chelsea qui arrive, qui est en 10e position de champion d'Angleterre, n'a absolument plus aucun espoir d'accrocher le wagon pour la Champions League, et en fait est plus proche maintenant de la zone de relégation que des places européennes au niveau comptable.
C'est assez fou de se dire ça. Tu parlais
Ouais.
de Graham Potter. Quand on
Ouais.
le voit, même physiquement, on a l'impression qu'il est complètement perdu. Est-ce qu'il peut encore être l'homme de la situation malgré toutes les qualités qu'on a vues de lui par le passé?
Oui, et la deuxième partie de la phrase est importante parce que c'est vrai que Graham Potter, partout où il est passé, à tous les niveaux, a été une réussite. Hein, que ce soit même avec les féminines du Ghana, que ce soit avec les équipes d'étudiants, avec les semi-pro suédois, avec Swansea et puis surtout avec Brighton, à chaque fois, il a trouvé le moyen de hausser son jeu, j'allais dire. Et s'il paraît perdu aujourd'hui, bon, certainement, c'est en partie à cause justement du choc que lui-même ressent émotionnellement, c'est peut-être également une conséquence psychologique des menaces qu'il a reçues, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas passer sous silence, c'est que
Bien
même
sûr.
si le football n'est que le football, il y a des supporters de Chelsea qui ont trouvé le moyen de proférer des menaces à son encontre et à l'encontre de sa famille. Enfin, c'est absolument effarant, enfin bon, que dire? Que l'on ait déjà dit 100 fois et que l'on redira, hélas. Et en effet, il peut passer un petit peu en ce moment pour le lapin qui est pris dans les lumières de la voiture. Donc c'est vrai, il y a un peu ça. Mais si il est dans cette situation, c'est aussi parce que c'est pas la situation qu'il a demandé, c'est parce qu'il se retrouve avec un effectif pléthorique et que je voudrais bien savoir comment quelque entraîneur que ce soit pourrait gérer ça. C'est hallucinant. On en parlait d'ailleurs, hein, tous les deux avant le match contre Tottenham, on regardait le banc de Chelsea, on se disait, mais comment est-ce qu'on peut. C'est incroyable, Wesley Fofana, Paddy Achille,
Moudric.
Mason, Modric, avec qui a été. Il y avait on se souvient du bras de fer qui a eu lieu avec Arsenal. Arsenal qui, au passage, est allé vers Leandro Trossard, et ça leur a pas trop mal réussi, hein, et ça leur a
Tout à
coûté le
fait.
cinquième. Hein. Pendant ce temps-là, au passage, Jorginho, aujourd'hui, peut-être que Graham Potter en voudrait bien, le Jorginho qu'on voit à Arsenal, en tout cas. Pas celui qu'on avait vu avec Tuchel et celui qu'on avait avec Potter. Et il se retrouve avec un squad qui est tellement gonflé, enflé, que j'ai l'impression qu'il ne sait plus véritablement vers qui se tourner, parce que les profils des joueurs qu'il a sont des profils totalement non complémentaires. Moi, ça me rappelle beaucoup, tu vois, ce qui s'est passé à Manchester United quand Manchester United empilait les joueurs les uns après les autres, avant que Manchester United décide, bon, ça suffit comme ça, on va se débarrasser du bois mort, on met en place Erik ten Hag, on lui fait confiance. C'est un petit peu les turbulences au départ, mais ensuite il y a quelque chose qui se met en place parce qu'on a une équipe qui ressemble à son entraîneur et son manager est capable de lui donner une personnalité. Il va falloir qu'on m'explique ce qu'il y a de commun entre des attaquants comme Kai Havertz ou Raheem Sterling ou Hakim Ziyech ou Christian Pulisic. Non, c'est dingue. Luka, excusez-moi. Non, pas Luka. Pensez à Luka Modric. Modric, et on peut continuer comme ça. On peut faire, on peut égrener tous les noms les uns après les autres. Ça n'a absolument aucun sens. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que N'Golo Kanté est sur le point de revenir et qu'il ferait du bien en milieu de terrain, ça c'est certain. Et donc, je me demande si Potter lui-même, son défaut, entre guillemets, c'est justement d'être face à cette situation et se dire, bon, je dois essayer d'être fair-play avec mes joueurs. J'ai un groupe de 35 à 40 professionnels, c'est extraordinaire. D'habitude, dans les clubs, quand on double les postes, on se dit qu'on a de la chance. À Chelsea, on les triple ou on les quadruple. Et donc, il doit faire des choix. Et de match en match, ses choix ne fonctionnent pas véritablement. Donc, il change à nouveau. Et il se retrouve donc face... C'est un petit peu... Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui, tout d'un coup, à qui on dit de remplir une mission, qui pourrait être remplie avec des outils simples. Et on le fait venir dans la plus grosse quincaillerie du monde en lui disant, bah, tu peux prendre ce que tu veux. Oui. Et bonne chance. Oui, non, mais et en plus de ça, ce qui est extraordinaire, c'est que le recrutement de Chelsea, qu'est-ce qu'on a recruté? On a recruté des défenseurs, des milieux de terrain, des animateurs du jeu, on va dire ça comme ça, hein, des ailiers, des pistons.
Mais pas
on
n'a
pas recruté un. Et pas d'avant-centre. Et pas d'avant-centre. Alors que c'est le club qui a laissé partir Romelu Lukaku, ne l'oublions pas, qui est toujours sous contrat avec Chelsea au passage.
C'est vrai.
C'est le club qui a, pour un comme avant-centre, s'est tourné vers Pierre-Emerick Aubameyang qui ne mettait plus un pied devant l'autre. Et c'est le club qui dépense 300 millions et pas capable d'identifier un avant-centre. Je dis bien un. Alors oui, il y a Nkunku, mais Nkunku, il va arriver à l'intersaison.
Oui.
Donc, c'est hallucinant. Et ça, ces décisions, ce n'est pas Graham Potter qui les a prises. Ces décisions, ça a été pris par Todd Boehly et la nouvelle équipe qui a été mise en place. Et pour moi, c'est une conséquence, voire d'ailleurs les deux ou trois chroniques que j'ai écrites sur le sujet sur Eurosport, sur notre site.
Tout à fait.
Le fait que... Ils ont complètement fait exploser la structure interne du club, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés de Marina Granovskaya, qui était la directrice sportive du club. Petr Cech est parti aussi. En fait, toute l'équipe de recrutement et de négociation de Chelsea est partie, ce qui se comprenait un petit peu quand même au niveau de la prise de contrôle du club de Roman Abramovich, autre sujet dont on devrait parler. Et donc, il y a eu un vide qui s'est mis en place. Et au lieu... On aurait pensé que, préparant leur prise de contrôle, Todd Boehly et Clear Lake se seraient dit « Bon, on va avoir déjà une équipe en place, on sait qui on va mettre en place. » Ils ne savaient pas. Ils n'avaient personne. Ils n'avaient personne. Et donc, on a eu la situation où Thomas Tuchel, tu te souviens sans doute, était en position de directeur sportif adjoint. Il s'en était d'ailleurs plein en public. Il avait dit « Je suis désolé, ce n'est pas mon job. Moi, je me concentre sur l'aspect coaching et tout ça. Là, vous me faites intervenir comme directeur sportif. Bon, je le fais parce qu'il faut bien le faire. » Et du coup, ça a déséquilibré le club, déséquilibré l'équipe, déséquilibré un manager qui avait gagné la Ligue des Champions, un grand manager, qui du coup a été limogé parce que tout simplement ça le courant ne passait plus. Et que c'est Tuchel hein, aussi, comme il avait fait à Dortmund. Tuchel, si les choses se passent mal, il se casse. Et on fait venir un entraîneur qui est un excellent manager, un excellent coach, dont le plus gros problème lorsqu'il était à Brighton, dont l'équipe était un modèle de jeu pour le reste de la Première Ligue, j'exagère à peine quand je dis ça, c'est qu'il n'avait pas de véritable avant-centre. Et donc, il devait se reposer sur Neil Maupay, qui n'est pas... Bon, Neil Maupay, ce n'est pas Erling Haaland, hein, malgré toutes ses qualités. Et là, il se retrouve exactement dans la même situation. Il a un groupe qu'il fait jouer plutôt pas trop mal. Encore une fois, ce n'est pas emballant.
Mais c'est vrai qu'il y a du propre. Doute.
Mais techniquement, c'est propre. Et d'ailleurs, les amateurs de XG, je ne sais pas comment on dit en français, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des stats pour Chelsea depuis le début de l'année. Vous verrez que Chelsea, en fait, au niveau des expected goals, est en fait dans le top 4, top 5 en Angleterre. Par contre, il n'y a personne pour les conclure ces occasions. Ouais. Et donc, si jamais ils se séparaient de Graham Potter maintenant, ce qui est tout à fait possible... D'abord, il faudrait savoir qui vont prendre à la place. Mauricio Pochettino je ne sais pas. La personne se retrouvait avec exactement le même problème, c'est-à-dire essayer de faire gagner une équipe qui vient de perdre Thiago Silva au passage, de faire gagner une équipe qui n'a pas d'avant-centre et dont le principal problème est de ne pas marquer de but. Ah ben, bonne chance. Il va falloir montrer beaucoup d'imagination. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, du coup, tu m'excuses, Je pourrais parler des heures sur le sujet, mais je veux bien que Graham Potter soit en partie responsable de ce qui se passe, et c'est bien évidemment qu'il est en partie responsable de ce qui se passe. La façon dont il n'arrête pas de changer son équipe indique quand même un certain manque de direction, un certain manque de direction, et plus que de l'hésitation, on va dire, dans la façon de gérer son groupe. Et c'est du gâchis. Mais à côté de ça, les problèmes de Chelsea sont beaucoup, beaucoup plus profonds et font craindre, bon, si c'est le mot qui convient, pour son avenir. Parce que tel que c'est parti, en effet, Chelsea, sans Ligue des Champions l'année prochaine, ça c'est quasiment garanti, à moins qu'il, par miracle, il remporte cette édition.
Mais justement, on peut en parler, tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais Chelsea, 10e de Première Ligue, à 14 points, je crois, de Tottenham, 4e. On en vient quand même à se poser la question, même si on imagine bien que les propriétaires de Chelsea n'ont pas trop de problèmes sur le plan financier, mais est-ce que avec ce mercato hivernal et malgré ces contrats très très longue durée, Chelsea a suffisamment de marge avec cette bidouille financière pour ne pas se mettre en danger vis-à-vis de la Première Ligue et vis-à-vis de l'UEFA également.
Oui, et d'autant plus que tu auras vu que le gouvernement britannique a publié son livre blanc sur le football anglais, et dans lequel il est spécifié qu'il va y avoir la mise en place d'un nouveau régulateur, c'est-à-dire d'un service, d'une autorité constituée qui chapeautera l'ensemble du football anglais, enfin l'ensemble du football professionnel anglais, et qu'avec un contrôle beaucoup plus strict, notamment des finances des clubs. Il y a déjà en place, hein, au passage, bien évidemment, les réglementations du fair play financier anglais, qui expliquent, au passage, pourquoi Manchester City s'est retrouvé avec 115 chefs d'accusation par la Première Ligue il y a 2 semaines de cela maintenant. Et en l'occurrence, oui, on peut se poser des questions, parce que le club, ben, c'est une hémorragie au niveau de l'argent. Le fair play financier de l'UEFA, à la limite, je te dirais, ce n'est pas trop un problème, puisqu'ils ne disputeront pas de compétition européenne. Ça sera plus un problème un peu plus tard, mais au niveau du fair play financier en Angleterre, oui, c'est un énorme problème. Et c'est un problème qui n'a pas du tout été anticipé par les dirigeants de Chelsea. Il faut savoir que Todd Boehly, qui certes aime le football, hein, je veux dire, il ne faut pas non plus tomber dans cette espèce de xénophobie, anti-américanisme primaire, dire, ah, ils sont américains, ils ne comprennent rien, au ballon, etc. Donc, ce n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui aime le football depuis un bout de temps et qui s'intéresse, qui est d'ailleurs impliqué dans le football depuis un bout de temps aux États-Unis, mais pas au niveau de Chelsea. Mais bref, malgré tout, quand il est arrivé, il est arrivé en disant, oui, de toute façon, pour ce qui est des finances du club, vous savez, nous pouvons nous reposer sur les revenus des compétitions européennes. Et il parlait à un journaliste quand il a dit ça. Le journaliste lui a dit, mais vous savez la qualification pour les compétitions européennes n'est absolument pas garantie. Hein, voilà. Et il avait l'air surpris d'entendre ça. C'est quand même assez extraordinaire. Parce que c'est vrai,
Complètement
Chelsea est toutes les saisons en Ligue des Champions. Et à cause de ça, bah, on voit dans la colonne des revenus, et j'imagine dans ce que Chelsea, les gens qui représentaient Chelsea lors des tractations ont fait les comptes et ont montré l'état financier de Chelsea, ils ont dû dire, regardez, toutes ces saisons-là, Ligue des Champions, on l'a gagné, on est arrivé en finale, demi-finale, etc. On a remporté, on a gagné 100 millions, 150 millions, etc. Et il n'a peut-être pas fait le rapport. Mais bon, c'est en effet, ça fait se poser des questions sur la structure financière de ce club. L'une des façons dont il pourrait s'en tirer, c'est des soldes massifs l'été prochain, parce que évidemment il y a ce tour de passe-passe comptable qui permet d'amortir le prix d'achat des clubs, des joueurs sur la durée de leur contrat. Il y a le tour de passe-passe inverse,
Oui, la
et le
vente,
fait que
elle est
la
immédiate.
vente, exactement, tous les produits financiers d'une vente sont mis à l'actif du club. Donc si vous vendez, je ne sais pas, Christian Pulisic, ou si vous vendez Hakim Ziyech, ou peu importe, ou voire Mason Mount, puisqu'on a parlé de Mason Mount s'en allant, c'est quand même assez extraordinaire, vous pouvez mettre les 50-60 millions directement dans votre colonne des actifs. Et donc, ça permet de rétablir un petit peu les choses.
C'est la magie du football
Mais bon,
européen.
oui, ça va être très, très compliqué. Et pour Chelsea, bah oui, 14 points maintenant de Tottenham, c'est beaucoup. Même s'ils ont joué un match de moins que Tottenham, ça fait quand même. Et vu la façon dont les choses se passent en ce moment et les pressions dont Graham Potter fait l'objet, de la part des fans, dans les médias, etc., etc., ça va être très très compliqué à redresser cette situation.
Oui, il risque d'y avoir du changement. Merci beaucoup, Philippe. On te souhaite
Oui, et
une.
juste, oui, mais écoute, juste
Bisous.
une chose à ajouter, c'est n'oublions pas quand même que Todd Boehly et Clear Lake, qui sont quand même les principaux responsables de cet état de fait, sont également ceux qui s'intéressent de très près au Racing Club de Strasbourg. Je souhaite très bonne chance à tous mes amis alsaciens.
C'est effectivement pas très rassurant pour le club strasbourgeois. Merci Philippe, on te souhaite une très bonne semaine. On te retrouve évidemment à l'écrit sur Eurosport.fr, ici même la semaine prochaine dans Tour d'Europe. Merci à toi. On file en Allemagne pour parler d'un géant qui va bien, le Bayern Munich, avec David Lortolari. David, bonjour. J'espère que tout va aussi bien pour toi que pour le Bayern Munich, parce qu'on va pas se mentir, on n'avait pas été franchement emballé par la prestation du Bayern face au PSG en huitième de finale de Ligue des Champions, même s'il y avait eu une victoire au bout. On a aussi vu que ça s'était mal passé dans la foulée face à Mönchengladbach. Et puis là, il y a cette victoire éclatante, importantissime aussi dans la course au titre. Dis-nous comme tu le sens, est-ce que ce Bayern fait de nouveau peur ?
Oui, ça va clairement crescendo, ça va clairement de mieux en mieux depuis le 1er janvier. Il y avait eu cette série de matchs nuls d'abord avec un jeu peu convaincant, moins d'occasions qu'en fin d'année dernière. Donc c'était un peu inquiétant pour les dirigeants, c'était un peu inquiétant pour l'entraîneur qui semblait s'agacer et pour certains joueurs qui n'avaient pas l'air hyper performants, hyper concernés. Ce moment-là semble passer au Bayern. Il y a des éléments évidemment pour pondérer un peu tout ça sur cette victoire importante de ce dimanche contre Union Berlin qui était à égalité de points. Il y avait quand même un adversaire qui avait joué en Coupe d'Europe, qui avait sorti l'Ajax quelques jours avant, alors que le Bayern, lui, avait toute une semaine pour s'entraîner. Ce sont des choses qu'il faut avoir à l'esprit, mais l'impression persistante quand même, c'est un Bayern qui va mieux, c'est un Bayern qui retrouve de la concurrence aussi à certains postes, avec les recrues, avec les retours de certains blessés. On peut citer Mazraoui qui va revenir aussi parmi d'autres exemples. Et puis l'intégration aussi, de mieux en mieux, des éléments qui pèsent lourd dans cette équipe. On va citer très vite un exemple, Matthijs de Ligt en défense centrale, le néerlandais, qui s'intègre de mieux en mieux, non seulement sur le plan du jeu, mais ça, il avait été assez performant d'emblée, mais aussi sur le plan de la culture, sur le plan de l'intégration humaine. Et il commence à parler allemand, Matthijs de Ligt, et ça peut paraître anecdotique, mais ce sont des choses qui participent un peu à l'harmonie générale, et on a l'impression que cette victoire contre Union Berlin, qui était quand même très importante pour rester en haut du classement, le Bayern, c'est la référence, donc ça doit être en haut, a fait beaucoup de bien et elle a été effectivement sur le terrain aussi convaincante.
Sur un plan beaucoup plus technique, tactique, il y a aussi eu un retour au 4-2-3-1 qui a priori a très bien fonctionné. Est-ce qu'on peut imaginer que ce schéma-là soit aussi celui du Bayern pour le 8e de finale retour face au PSG ?
Oui, alors reste à savoir avec quel joueur, puisqu'il y a eu un petit débat sur le fait que la petite surprise du coup d'envoi contre Union Berlin, c'était qu'on a démarré à droite sur cette défense à 4 avec le Croate Stanisic. Donc les gens se sont un peu étonnés, tiens, pourquoi c'est pas Joao Cancelo ? Et ça a été justifié en disant qu'on avait besoin d'un système un peu plus défensif, avec quatre défenseurs, on a besoin de peut-être un peu plus de stabilité que si on joue à 3 plus 2 oui. joueurs avancés, Cancelo à droite, Alphonso Davies à gauche. C'est un système un peu plus sécurisé et voilà, ça a été justifié un peu comme ça. Donc oui, on peut imaginer cette défense à 4. Pavard de Ligt dans l'axe, ça marche très bien. C'est pour moi aussi convaincant quasiment que Upamecano de Ligt. Donc ça, je pense que Nagelsmann va probablement s'appuyer sur cette certitude-là. Et puis, ça permet aussi d'avoir l'assise habituelle. Et c'est le système, rappelons-le quand même aussi, qui a permis au Bayern de gagner ces Ligues des Champions récentes. C'était le cas avec Jupp Heynckes, c'était le cas avec Ottmar Hitzfeld, ça a été le cas avec Hansi Flick. Et je pense que Nagelsmann aime bien aussi revenir à cette culture-là très bavaroise. Ça ne veut pas dire que le système à 3 est abandonné. Mais en tout cas, là, ça a fonctionné et il peut s'appuyer sur ces certitudes-là.
Tu me parlais d'avoir un petit peu plus de sécurité. Est-ce qu'il ne faut pas justement y voir là une préparation, une espèce d'arme anti-Mbappé ? Notamment parce que c'est le côté droit. Côté gauche,
oui, 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 c'est possible. Stanisic a été fort, je ne dirais pas brillant. Ce n'est pas un joueur d'exception, mais il a été fort quand même à ce poste-là sur ce match-là. Il n'avait pas forcément une adversité exceptionnelle, quoique les deux attaquants de l'Union sont quand même des poisons et des joueurs dangereux, avec notamment Geraldo Becker. Mais oui, on peut imaginer. Et puis ça permet aussi, ça il faut, on va en parler avec Sadio Mané qui revient aussi, c'est l'événement, mais ça permet à Nagelsmann d'instaurer plus de concurrence. Si vous dites à João Cancelo, qui est un formidable joueur, tu n'es pas certain d'avoir ta place en permanence, tu as aussi des joueurs qui peuvent te remplacer, qui peuvent te challenger un petit peu, ça peut être Pavard, ça peut être Stanisic, quelqu'un d'autre aussi au milieu de terrain, c'est bon pour le côté compétiteur du joueur. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est essentiellement malgré tout pour Nagelsmann, la volonté d'entretenir la concurrence. Je pense que dans ce genre de club, c'est une clé pour comprendre les compos d'équipe.
Tu parles de concurrence, il y a un joueur très très important qui a fait son retour dimanche, c'est Sadio Mané. Il a joué 25 minutes. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour le Bayern, si ça change quelque chose? Et est-ce qu'on peut l'imaginer titulaire pour l'huitième de finale retour, en sachant qu'il y aura une autre journée de championnat avant cela?
Ben, y a deux éléments essentiels à avoir à l'esprit qui ne sont pas des surprises. Le premier élément, c'est qu'au présent, au moment où on parle, et ce dimanche, donc fin de semaine dernière, Sadio Mané a repris un événement, un retour, enfin, il a fallu être patient pour lui comme pour le club, il n'est pas encore dans le rythme. Évidemment, pour les duels, pour la vitesse d'exécution, il n'a pas encore pleinement retrouvé sa fluidité, mais on a quand même retrouvé un joueur qui fait peur à la défense adverse. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, on revient sur notre fil rouge de notre discussion. Oui, cette concurrence. Serge Gnabry a besoin d'être concurrencé. Il peut s'éparpiller. Le Roi Sané a besoin d'être concurrencé. Il peut perdre le moral assez vite au cours d'un match ou voilà, s'il perd le fil de son jeu. Ça fait déjà deux joueurs qui ont besoin d'être concurrencés. Choupo-Moting a besoin aussi parfois d'un peu de repos. Et Sadio Mané peut jouer plein axe. Sadio Mané peut jouer aussi à la place de Thomas Müller si Müller fatigue un peu au bout de 65-70 minutes. Ça fait déjà quatre joueurs, même peut-être cinq, je me perds, qui sont concernés par le retour de Sadio Mané. Donc c'est très bien pour la concurrence au Bayern. De là à ce qu'il soit titulaire, on n'en est pas encore tout à fait là. Il a fait un retour intéressant, il n'a pas grimacé, il a apporté des solutions, de la variété offensive, de la mobilité sur le front de l'attaque. Oui, donc c'est un joueur qui va postuler pour être titulaire contre Paris Saint-Germain, mais c'est surtout pour Nagelsmann une nouvelle solution, quel que soit le moment du match, en attaque pour faire peur aux défenses adverses et pour attirer des défenseurs et libérer de l'espace pour qui? Parce que lui, je ne l'ai pas cité, et il faut le citer, Jamal Musiala. C'est encore et toujours ce prodige qui peut faire des différences sur 2-3 mètres à l'entrée de la surface par un petit dribble. Et Musiala, s'il a autour de lui des joueurs qui agrègent la défense, c'est tout bénef évidemment pour lui et pour les solutions offensives du Bayern.
Bon, bah tout ça n'est pas hyper rassurant pour le PSG. Merci beaucoup David, on te libère parce que tu as beaucoup de travail toi aussi. On te retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Et nous, on sera en Espagne pour se pencher sur la sale semaine du Barça. Salut Anna, il y a une semaine, tu nous annonçais des difficultés à venir pour le Barça, notamment en raison de l'absence de Pedri. On est une semaine plus tard, il y a eu une élimination en Ligue Europa face à Manchester United, il y a eu une défaite un petit peu embarrassante face à Almeria ce week-end. Il y a toutes ces affaires extra-sportives, l'affaire d'arbitrage avec les paiements occultes, il y a aussi la crise financière qui continue de veiller. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, est-ce que le Barça est en train d'amorcer une petite crise?
Une crise, ce serait un peu fort, mais... On voit clairement là que l'absence de Pedri a fait très mal. Après, la Ligue Europa, je pense que c'est pas tant une crise que ça pour le Barça. Ce que je disais la semaine dernière, en fait, je suis pas sûre. Je suis pas convaincue que Xavi voulait la jouer à 100%. On sait que c'est des coupes pour lesquelles, enfin, des compétitions européennes pour lesquelles le Barça n'est pas habitué à jouer, en fait. Et là, ils ont perdu contre United. Là où Xavi était très 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 énervé hier soir après la défaite face à Almeria, on l'a senti beaucoup moins énervé après la défaite contre United. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui le Barça vise plus la Liga et c'est toujours à leur portée, donc ça va. Mais il va effectivement falloir quelques changements s'ils veulent pas aller partir en crise, justement.
Ouais, c'est pour ça que c'est un petit peu paradoxal, parce que mine de rien, le Barça a encore de la marge en Liga, d'autant qu'il y a eu ce match nul dans le derby madrilène entre le Real et l'Atlético. Effectivement, Xavi hier qualifie la défaite de pire défaite de la saison, pire match de la saison. Il y a quand même un classico qui arrive en Coupe du Roi en milieu de semaine. Ouais. Est-ce que ce match-là peut avoir malgré tout une importance sur la suite de la saison et sur cette course au titre en championnat, selon toi ?
Une importance sur la saison, oui, dans la mesure en fait où on sent le Barça fébrile là mentalement en fait. Parce qu'on a vu hier face à Almeria, même Lewandowski n'y arrivait pas. On avait très très peu de joueurs qui, entre guillemets, sonnaient la révolte. Et en fait, ça rappelle énormément ce qu'on avait vécu la saison passée, justement en l'absence de Pedri, où il n'y avait personne pour amener du mouvement au milieu, pour tenter des choses finalement. D'ailleurs, la seule frappe cadrée du match vient d'un gamin de 18 ans qui s'appelle André Lalarcón, qui a tenté sa chance en tout bout de match. Parce que voilà, il n'y avait plus rien à perdre, mais sauf qu'on a l'impression justement qu'il n'y avait que lui, entre guillemets, qui avait cette sensation de n'avoir rien à perdre. Il y en a quelques-uns, comme Frankie de Jong par exemple, qui ont eux aussi tenté, mais c'était très marginal. Et je pense que si le Barça perd contre le Real Madrid en Copa, ça va plus faire du mal dans la tête qu'ailleurs. Et même si Xavi a essayé de résoudre ce problème, parce que c'était un problème récurrent avant qu'il arrive, y a encore des failles. Et comme on voit parfois le PSG se faire attraper par ses démons, on a l'impression qu'il y a un peu toujours cette épée Damoclès qui est au-dessus de la tête du Barça, et que ça peut revenir à tout moment, en fait, ce spleen un peu que traînait le Barça ces dernières années.
Donc, tu le disais, il y a quand même une vraie importance sur ce match-là. On ne peut pas imaginer que Xavi se serve de cette double confrontation, parce qu'on rappelle que c'est un match aller-retour en Coupe du Roi, pour faire des tests, essayer de trouver des solutions, notamment sur le plan de la créativité. Le Barça va être obligé de jouer ce coup-là à fond.
Faire des tests, oui, mais en fait, il les fait trop tard, parce que si on voit hier le milieu de terrain, il n'y avait quasiment aucune créativité. Kessié qui a été très mauvais, on va dire. Le seul qui amenait un petit peu de créativité du coup et de percussion, c'était Frankie de Jong, mais sauf que ne peut pas jouer seul dans ce rôle-là. Et en fait, le vrai problème de ce Barça-là aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas anticipé une potentielle blessure de Pedri, alors qu'on avait vu l'année dernière combien ça a fait mal au Barça. Ils n'avaient sur les 8 matchs d'absence de Pedri la saison passée, il y en a 4 qui n'ont pas été gagnés par le Barça. Il y avait 3 défaites, un match nul. Le Barça a recruté Pablo Torre l'été dernier. C'était un jeune qu'on disait avoir les mêmes qualités que Pedri. Pour l'avoir vu jouer, il a un peu moins de gris-gris que Pedri, mais il a quand même cette qualité de projection, cette créativité, et il est surtout très bon sur coup de pied arrêté, ce qui peut être quand même utile quand on est pas trop sûr de ses forces. Et en fait, Xavi a beaucoup trop tardé à le lancer. Et hier soir, il est rentré une fois qu'il a vu que c'était trop compliqué en fait pour son milieu de terrain et pour Kessié notamment. Sauf que c'était un peu trop tard en fait. Il aurait dû le lancer bien avant. Il a eu bien d'autres occasions de le lancer. Pablo Torre jouait son premier match de Liga depuis le mois d'octobre. Donc c'est vraiment une perte de temps pour le Barça. Et aujourd'hui, un jeune de 19 ans comme lui va pas pouvoir forcément se mettre directement au niveau de ce que demande le Barça. Tout le monde n'est pas Gavi, et ça va coûter très cher, je pense, au Barça ces prochaines semaines, et notamment dans ce cadre où on va enchaîner les classicos.
Ouais, il y a le classico du championnat, donc le 19 mars prochain. Ouais. On n'est pas certain que Pedri soit de retour pour ce match-là, même si a priori c'est l'objectif. Il y a un joueur qui souffre beaucoup de l'absence de Pedri, c'est Lewandowski, qui, encore une fois, dimanche, et qui, depuis plusieurs semaines, depuis l'absence de Pedri, justement, semble un petit peu esselé, et en difficulté.
Oui, alors en fait, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal à trouver sa place, Lewandowski, dans ce rôle-là, dans ce cadre-là, parce qu'avant, il avait beaucoup Gavi, Pedri, qui alternaient pour faire les trajets, en fait, les liaisons entre milieu et attaque, qui amenaient beaucoup de percussions, ce qui crée de l'espace derrière pour Lewandowski. Et dans ce rôle, en 4-3-3, avec Ferran Torres, qui est souvent assez excentré et qui lui-même a aussi du mal à trouver sa place. Et un Rafinha qui, honnêtement, n'est pas très bon en ce moment. L'absence de Ousmane Dembélé aussi, quand même, parce qu'il avait commencé à bien combiner avec lui, lui donner les espaces sur lesquels il fallait qu'il envoie des ballons. Hier, il y a eu un record de passes latérales et de centres pour le Barça. Et pour le coup, ça n'a rien donné pour Lewandowski. En fait, Lewandowski, on sent une certaine frustration du fait qu'il n'ait pas forcément de ballon dans les bons endroits. Donc, il va aller chercher lui-même, il descend, et ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de danger dans la surface adverse. Et puis, à l'inverse, quand Xavi lui demande de rester justement dans cette surface, il est tout le temps pris à deux par la défense adverse. Ce qui est assez logique, sauf que il n'y a plus donc les déplacements de Gavi, Pedri pour permettre à Lewandowski d'être trouvé dans ces petits espaces de la surface. Le problème, c'est qu'il va vraiment falloir que Xavi trouve une solution parce que Lewandowski, en début de saison, ça a été très très souvent un sauveur pour gratter des points en Liga notamment. Et si aujourd'hui on n'a pas un Lewandowski en forme du côté du Barça, ça va être très très gênant dans la mesure où on n'a plus Ousmane Dembélé et où le reste de l'attaque ne tourne plus aussi bien et donc on a l'absence de Pedri. En fait, il faudrait que Lewandowski réussisse à prendre un peu ce rôle de leader offensif qu'avait pris Pedri depuis le début du mondial, justement parce que Lewandowski n'était plus au niveau et qu'il arrive à mener cette équipe en étant à la réception de bons ballons, parce que pour le coup, il a reçu beaucoup de mauvais ballons aussi contre Almeria.
Anna, je vais finir par te poser une question qui est la question qu'on risque de se poser plusieurs fois dans les semaines qui arrivent. Quand on voit à quel point le Real est capable d'élever son niveau quand justement la pente s'élève et qu'on voit le Barça qui est en grande difficulté sur le plan sportif, est-ce que finalement la Liga n'est pas beaucoup plus serrée et même relancée avec ce qui s'est passé ces dernières semaines ?
Je suis pas certaine dans la mesure où on a vu que le Real avait beaucoup de difficultés en championnat quand même. Là, on l'a
vu. Il y a une vraie différence entre le Real européen.
Oui, clairement, et on l'a vu lors du derby. C'était très moyen, honnêtement, la prestation des hommes d'Ancelotti. Ils sont sauvés à la fin par un but d'un jeune du centre de formation. Mais sinon, notamment au milieu de terrain, là où le Barça a aussi beaucoup de problèmes en ce moment, l'absence de Pedri, on voit que sans un grand Modric, sans Tchouaméni, par exemple, qui est en 6, on avait Kroos en 6 contre l'Atleti, ils ont le milieu de terrain, en tout cas en première période contre l'Atleti n'a quasiment pas existé du côté du Real. Ils ont un problème aussi avec Benzema qui en Liga ne marque plus beaucoup. Donc en fait finalement les deux équipes ont un peu les mêmes lacunes en ce moment, si ce n'est que l'appui défensif du Real sont quand même plus stables que celui du Barça, parce que le chiffre comme quoi le Barça n'a pris que 8 buts en Liga est assez trompeur en fait. Ce qu'on l'a vu hier sur les transitions défensives, c'est pas loin du catastrophique hein, parce que vraiment... Quand on voit Christensen et Eric Garcia, ils sont totalement dépassés. Et Busquets, qui n'arrive pas à faire la première couverture. Donc, ils ont juste cet apport défensif pour eux, du côté du Real. Mais je pense que vu leur niveau, enfin la capacité à élever le niveau en Ligue des Champions, il y a quand même de fortes chances qu'ils fassent un all-in sur la Ligue des Champions et peut-être la Coupe du Roi, même si on sait que c'est une coupe qui, d'habitude, ils ne jouent pas forcément au maximum.
Eh bien, merci beaucoup, Anna. On te retrouvera de toute façon très régulièrement pour débriefer tous ces classicos qui arrivent dans le mois de mars et le début du mois d'avril. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. On rappelle que vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast en tapant Eurosport FC. N'hésitez pas à nous noter, n'hésitez pas à venir commenter, notamment sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce sera avec Cyril Morin. Et d'ici là, suivez bien le football européen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.